matin de France Culture. Guillaume Erner.
7h41, annoncé par Emmanuel Macron lors d'une allocution le 10 décembre dernier, le grand débat national, consultation destinée à répondre à la crise des gilets jaunes, débutera le 15 janvier, soit demain, et durera jusqu'à la mi-mars, mais à quelques jours, du début de cet événement, les gilets jaunes enregistraient une participation en hausse à l'acte 9 de leur mobilisation. Nous recevons aujourd'hui un historien, Christophe Prochasson. Bonjour, vous êtes directeur de l'EHESS. Je pense qu'il est important d'ouvrir cette journée avec un historien, vous serez rejoint d'ailleurs par une historienne tout à l'heure, Sabrina Loriga, pour tenter de comprendre quel moment nous sommes en train de vivre. C'est un moment important, c'est je crois l'une des premières fois qu'un président de la République s'adresse ainsi aux Français avec une lettre. Vous avez travaillé auprès de François Hollande. Tout d'abord, votre regard sur cette lettre.
Écoutez, c'est une lettre qui ne semble pas contenir beaucoup de surprises, c'est-à-dire que les annonces qu'il avait précédées, les thèmes envisagés, le volet de la citoyenneté, la laïcité, l'immigration, des thèmes économiques et sociaux, tout ça y figure à quelques détails près, tout de même, notamment la question extrêmement sensible mise en avant par le mouvement de l'ISF, visiblement est une question qui est hors de portée. Donc voilà, je pense que les réactions, vous les avez lues comme moi, elles sont contrastées, un peu semble-t-il déçu pour un certain nombre, notamment dans l'opposition d'hommes et de femmes politiques. Bon, voilà. Je pense que on est au début de ce grand débat, que pour l'instant il faut attendre ça avec prudence. Et c'est vrai, vous avez raison de signaler que d'un point de vue historique, c'est un geste assez inédit. Même si des présidents de la République ont contribué au débat politique en ouvrant de grandes questions, hein, lorsque par exemple au début des années 80, le président Mitterrand honore sa promesse sur la peine de mort, ça engendre évidemment tout un débat. Lorsque l'Europe, en 1992, autour du traité de Maastricht, il y a eu un grand débat, plus encore en 2005. Donc, les présidents de la République, d'une certaine façon, ont vocation à ouvrir des débats. Là, la forme, c'est la forme, hein, qui est évidemment totalement nouvelle.
Ouvrir des débats, susciter des débats, bien sûr, cela a déjà eu lieu, comme d'ailleurs d'autres lettres adressées par des présidents de la République.
Dans un autre contexte aussi, qui était un contexte vraiment, vous faites allusion à la lettre à tous les Français de François Mitterrand, mais qui était un contexte purement électoral.
Rappelez-le aux plus jeunes.
Eh bien oui, en 1988, le président de la République de l'époque, François Mitterrand, décide donc de se représenter. D'ailleurs, il annonce ça d'une façon très, très minimaliste, hein, avec un petit oui lancé aux journalistes qui l'interrogent. Et puis ce petit oui a été suivi d'un document assez unique, publié dans la presse, d'une lettre à tous les Français, dans lequel se trouvait énoncé un programme. Alors c'était oui d'une certaine façon un texte à mettre en discussion puisqu'il était soumis au vote, mais il n'était pas là pour résoudre une crise politique. Et c'est ça qui est profondément nouveau. C'est-à-dire d'une certaine façon de sortir d'une crise politique par l'ouverture d'un débat. C'est ça qui est vraiment nouveau. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, on pourrait saluer, on verra encore une fois comment les choses se déroulent, mais on pourrait saluer d'une certaine façon un geste qui est fidèle à une certaine conception de la République. J'allais dire que en France, le pacte républicain, j'entends la République comme le disait Claude Nicolet dans son sens athénien.
Claude
si vous
Nicolet,
voulez.
C'est un grand historien
qui est grand spécialiste de la République. Hein, il parlait de la version athénienne de la République, un peu épurée, comme sous la Troisième République, on a souvent de la nostalgie pour cette République-là. Eh bien, repose sur la raison. La raison est au cœur de la République, d'une certaine façon, et tout ce qui va avec, l'école. La discussion, le débat donc. D'une certaine façon, la République est très peu consommatrice de sentiments et de symboles. Elle est très économe en la matière. En revanche, elle a cet idéal de penser que les problèmes peuvent se résoudre après le débat. Le débat qui est au cœur aussi de la démocratie.
Mais généralement, ce débat, il précède l'élection. Alors, il peut y avoir des débats après, bien entendu, vue si notamment les citoyens ne sont pas d'accord par rapport à l'action du chef de l'État. Mais par exemple, cette phrase écrite par Emmanuel Macron, « Nous ne serons pas d'accord sur tout, c'est normal, c'est la démocratie ». Qu'en pensez-vous, Christophe?
Ah bah, je pense que c'est tout à fait sensé. Enfin, je pense qu'il est tout à fait normal que le désaccord, la controverse, parfois la polémique, hein, et on en sait quelque chose aujourd'hui, c'est le carburant, j'allais dire, le fuel de la démocratie. Par définition, la démocratie est l'endroit où doit se déployer le désaccord, parce que du désaccord naît le progrès. Là encore une fois, ce substrat-là est au cœur de la démocratie par rapport à tous les régimes autoritaires qui veulent étouffer le débat et imposer une vérité, une seule façon de voir les choses.
Et parmi les critiques justement de la démocratie, parmi ceux qui considèrent que ça n'est pas le pire des régimes à l'exception de tous les autres, eh bien il y a par exemple la critique qui est faite sur les bavardages démocratiques. C'est Jacques Rancière, le philosophe, qui fustige cela. Est-ce que le fait de consacrer un temps de débat après l'élection, alors pendant une période de crise, et pour tenter de sortir de cette période de crise, est-ce là quelque chose de profondément inhabituel? Comment ce débat pourrait-il prendre forme, Christophe Prochasson?
Ouais, je pense qu'il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire que, à vrai dire, dans notre pays, on ne débat plus beaucoup au sens sérieux du terme, j'allais dire. Effectivement, on envoie des phrases sur les réseaux sociaux, des formules, des punchlines, je crois, comme on dit. On s'étripe dans des talk-shows. Il reste, me direz-vous, et avec un zeste de flagornerie France Culture, où on a un petit peu plus de temps pour échanger. Mais les lieux d'un débat un peu organisé, un peu argumenté, avec un débat, ça se prépare, hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Tout ceci c'est un peu effacé de nos horizons, dans la mesure où les termes même du débat ne sont plus très clairs. L'effondrement, je dirais, des cultures politiques traditionnelles dans les 30 dernières années font aussi que ce débat devient difficile, puisque chacun ne sait plus très bien quoi penser, ce qu'il pense et ce que les autres pensent. Et ce flou-là conduit à, alors je ne dirais pas comme Jacques Rancière, je trouve que c'est une formule un peu malheureuse, de brouhaha démocratique. Je pense que
il en parlait pour critiquer.
De ce point de vue-là,
son livre La haine de la démocratie, il dit voilà, il y a beaucoup de gens qui considèrent que finalement le problème de la démocratie, d'accord, c'est quand il y a trop de démocratie.
D'accord. Je ne vais pas faire ce commentaire-là plus loin, mais je pense que ce brouhaha démocratique, effectivement, est factuellement attesté par cette quelque chose, errance en quelque sorte de la pensée dans les dernières années. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il va être très difficile de faire vivre ce débat, parce que c'est un débat qui tombe comme ça presque du jour au lendemain. Enfin, il a été annoncé depuis quelques semaines, mais qui n'a pas véritablement été préparé. On a renvoyé ça aux uns et aux autres. Chacun se débrouille en quelque sorte. Tout cela est fait un peu dans un grand désordre. Je ne passe évidemment sur le malheureux épisode de Chantal Jouanneau. Enfin, un débat, ce n'est pas du brouhaha précisément. Un débat, c'est quelque chose en effet qui devrait être rationnellement mise en place et documentée. Il ne s'agit pas de libérer la parole, parce que j'ai peur que si simplement c'est une libération, ce soit une espèce de torrent qui emporte tout et n'importe quoi. Donc c'est un vrai risque de ce point de vue-là. Mais l'idée même du débat, je crois, c'est une chose de ce point de vue-là qu'on ne peut que louer.
Ce débat, c'est une réponse à l'épisode des Gilets jaunes. Vous êtes un historien qui vous êtes beaucoup penché sur l'histoire du socialisme dès le 19e siècle, sur la tradition ouvrière. Que vous inspire justement ce mouvement des Gilets jaunes, Christophe Prochasson?
Je vais rajouter, alors non pas au brouhaha démocratique, mais au brouhaha analytique. Je vais, avant d'essayer de vous répondre, Guillaume Herner, je voudrais tout de même souligner que cette espèce de comment dirais-je, de multiplication des analyses, de précipitation des savants, des sociologues, des historiens dans l'interprétation, a conduit, à mon avis, aussi peut-être à un brouhaha, un désordre analytique qui fait que on a parfois manqué de prudence. Je fais ce petit préalable pour vous dire que je me méfie beaucoup
Vous pouvez aussi détricoter les interprétations des autres.
Oui, alors, je pense que très sérieusement, il n'y a qu'une chose à dire. Nous avons besoin de temps et nous avons besoin de calmer un peu le jeu. Et je pense que le rôle des savants, c'est de dire halte au feu, halte à la sociologie sauvage, halte au parallèle historique approximatif, halte en quelque sorte à tout ce discours pseudo-scientifique qui essaye d'analyser quelque chose que l'on ne comprend pas et qu'il faudra du temps pour comprendre. Il y a un temps de l'analyse scientifique et il faut le dire avec force afin que les savants soient respectés. Si les savants font, je le dis sans malice aucune, la même chose que les journalistes, ils n'auront plus de légitimité. Et de ce point de vue-là, moi, alors comme historien, puisque vous m'interrogez comme historien, je me méfie en particulier d'un certain usage de l'histoire qui vise à plaquer sur ce que nous observons des figures politiques ou des figures sociologiques qui renvoient au passé. Vous savez, il y a une phrase de Marx que j'aime beaucoup citer, qui est Marx disait à propos du mouvement ouvrier, les Français et les ouvriers en particulier, ajoutait-il, ont un culte réactionnaire du passé, ils sont encombrés de vieux souvenirs. Je crois que nous ne devons pas être trop encombrés de vieux souvenirs pour comprendre ce qui se passe. Au fond, parmi toutes les définitions de la crise, j'en donnerai une, la crise, c'est en quelque sorte ce qui résulte du décalage entre ce qui se passe et ce que l'on comprend. Et là, à mon avis, il y a aussi une crise, en quelque sorte, de l'interprétation, parce que vraisemblablement, alors je vais prendre un tic de vieil historien, vraisemblablement, nous sortons d'un moment de l'histoire, vous y faisiez allusion, dont je suis très familier, qui a donné nos cultures politiques, nos repères traditionnels, qui s'est d'ailleurs plus ou moins effondré ou qui s'est assoupi ou évanoui dans les années 80. Et nous sommes au terme de cette transition, sans doute, et peut-être, c'est ce qui nous rend les choses difficiles à comprendre, entrons-nous dans quelque chose de radicalement nouveau. Alors le débat, de ce point de vue-là, tombe peut-être au bon moment. En effet.
Alors justement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, puisque vous ne voulez pas céder, c'est ce que vous expliquez, Christophe Prochasson, au démon réactionnaire de plaquer sur le présent des filtres du passé. Donc je ne vais pas vous demander si on revit 1848 ou 1789.
On ne revit certainement pas ce genre de choses. Il y a évidemment dans le passé des choses qui peuvent évoquer, rappeler, qui peuvent même nous aider à penser le nouveau. Évidemment, en se tournant vers le passé, on peut penser le nouveau. Mais de dire qu'on revit un événement, vous savez, là encore, la fameuse phrase de Marx pourrait nous aider lorsqu'il dit que les événements et les grands hommes se produisent deux fois dans l'histoire. La première fois comme une tragédie, la seconde comme une farce. C'est une phrase bien connue. Ou alors, autre auteur, évidemment, d'un Raymond Aron interprétant la mai 68 comme la reproduction d'un théâtre, et justement le théâtre de 48. Bon, je crois que ces analyses-là manquent au fond ce qu'il y a de profondément nouveau dans ce qui est en train de se passer.
Pour reprendre les termes d'Aron sur mai 68, Aron, qui avait la dent très dure contre mai 68,
très, très dur,
parlait d'une révolution introuvable, d'un psychodrame, autrement dit, d'un phénomène qui n'était pas aussi sérieux qu'on le pensait. Pour vous, s'agit-il ce phénomène des gilets jaunes, s'agit-il d'un moment important? Alors, a-t-on affaire par exemple à un retour de la lutte des classes? S'agit-il d'ailleurs d'un refoulé qu'on avait tenté de gommer et puis il serait à nouveau là? Qu'en pensez-vous, Christophe Prochasson?
vous êtes d'une obstination qui vous honore. Donc je vais essayer quand même de dire des choses qui ne sont pas trop en contradiction avec mes préalables.
Non, vous avez dit, finalement, on ne peut pas plaquer un événement. Non, c'est pas 1800. 1948.
Est-ce que c'est un événement, vous savez, je ne vais pas décréter, bien sûr que c'est un événement, bien sûr que c'est important, mais en quoi c'est important et pourquoi c'est important? Je dirais, il y a deux choses, et je vais le dire évidemment avec grande prudence, qui me paraissent là tout à fait notables. C'est que, au regard du nombre de personnes impliquées, c'est-à-dire 50 000 personnes ou 100 000 personnes, allons jusqu'au bout, l'événement pourrait être considéré comme totalement dérisoire. Au fond, qu'est-ce que 100 000 personnes, même avec une opinion, mais une opinion constituée essentiellement par des sondages, et on sait toutes les critiques qu'on peut avoir sur cette façon de créer ou de construire l'opinion, au regard de cela, au fond, les implications ne sont pas très massives au regard d'autres mouvements sociaux qu'on a pu connaître dans l'histoire. Mais en revanche, c'est un fait que ce mouvement occupe beaucoup les esprits. Et là, je crois que l'acteur social qui me semble vraiment nouveau dans ce mouvement social, ce sont les médias et en particulier les réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment la première fois où on voit cet acteur-là jouer un rôle dans un mouvement social. Bon, ça c'est la première remarque que je pourrais faire, qui est évidemment imaginer la présence des réseaux sociaux en 1848, par exemple, si on décalait le temps, on pense que l'événement aurait pris une autre tournure et peut-être aurait eu d'autres résultats. Vous savez, les historiens font parfois du contrefactuel. Bien, ça c'est la première remarque. La seconde, qui me semble en accord avec un certain nombre de réflexions qui ont été développées par les historiens dans les dernières années sur ce qu'on appelle, de façon un peu pompeuse, les régimes d'historicité, c'est-à-dire notre rapport au temps, la façon dont nous construisons le temps. Et très longtemps, les révolutions ont été, ou les mouvements sociaux, ont été des façons d'ouvrir le temps, c'est-à-dire de sortir de séquences historiques pour ouvrir sur un nouveau temps qu'on appelait le socialisme, le communisme ou tout ce que vous voulez. Bon, cette façon d'ouvrir le temps, c'est affaissé en quelque sorte. Et je pense à mon collègue François Hartog qui a mis en avant la notion de présentisme, c'est-à-dire cette espèce de dictature du présent sur nos épaules. Et si j'avais une hypothèse, je pense que, encore une fois, moi je m'en tiens à l'état des hypothèses ou à un moment ou aux pistes de travail. Donc, s'il y avait une hypothèse à formuler, je dirais que peut-être le mouvement des gilets jaunes, c'est le premier mouvement social présentiste, c'est-à-dire quelque chose qui, au fond, auquel on assiste, où les gens, au fond, pensent à l'immédiat, au tout de suite, au maintenant, au sans délai. Et beaucoup ont souligné, je m'adosse là à ce que j'ai pu lire comme vous dans la presse, le plaisir d'être ensemble. Il y a toujours eu ça dans les mouvements sociaux. Hein. La grande historienne Michèle Perrault montrait que dans la grève, dans les années 1890, à la fin du XIXe siècle, il y avait ce plaisir d'être ensemble, de la fête, de la jouissance, du moment. Bon, mais là, on a l'impression que, en quelque sorte, ce mouvement social, au fond, s'arrête là, sans proposer, évidemment, des lendemains qui chantent, un autre moment de l'histoire, ce que j'appelais une sortie de l'histoire. Et c'est peut-être là où on sent une caractéristique. Mais ce que je dis là sera sans doute effacé d'un revers de la main quand les historiens se mettront sérieusement au travail.
On va continuer à évoquer justement ce rapport de ce mouvement au temps avec maintenant un autre calendrier, celui qui est fourni par Emmanuel Macron pour ce grand débat national auquel France Culture consacre son intérêt. Aujourd'hui, vous serez rejoint, Christophe Prochasson, dans quelques instants par une historienne directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, Sabina Lauria. En attendant, il est 8h sur France Culture. On va continuer d'évoquer cette lettre adressée aux Français avec également donc la question du moment historique que nous traversons, la manière dont on peut l'interpréter, et puis également la façon dont le temps de gouverner est aujourd'hui organisé, à la fois par Emmanuel Macron et par les Gilets jaunes qui contestent la politique menée. Nous sommes en compagnie de Christophe Prochasson, directeur de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et par une historienne également de l'École des hautes études en sciences sociales, Sabina Lauria, qui vient de nous rejoindre. Sabina Lauria, votre interprétation de ce qui est en train de se dérouler en France.
Merci beaucoup. Mais moi, j'aimerais revenir un moment sur ce que Christophe Prochasson a dit sur le fait que nous sommes encombrés de vieux souvenirs dans cette interprétation, ce qui me semble tout à fait correct. Et je pense que ces vieux, rêves, ces vieux démons du passé sont très intéressants à analyser. Lorsque nous regardons un peu les analogies qu'on a proposées dans le débat, et pas seulement par les Gilets jaunes qui n'ont pas proposé beaucoup de suggestions sur le passé, mais les commentateurs en revanche, oui, nous voyons que, bon, vous avez évoqué déjà la Révolution française, la Révolution de Juillet, dans le groupe Facebook, il y a le tableau de Delacroix, la liberté dans le peuple en gilet jaune, il y a la commune, il y a la crise du février 34, il y a le boulangisme, il y a le poujadisme, il y a mai 68, donc vraiment un ensemble d'événements différents, donc avec aussi des connotations politiques, je dirais, tout à fait différentes. Mais il me semble qu'il y a quelque chose, je dirais, en commun entre ces événements, et c'est le fait que tout renvoie à l'histoire nationale de la France. Mm-hmm. Et qu'on n'a pas, je dirais, des références, des analogies avec d'autres mouvements en Europe. On aurait pu parler, maintenant c'est moi qui propose des analogies qui bizarres, mais les mineurs en Angleterre sous Thatcher, on aurait pu évoquer Solidarność en Pologne. Non, en réalité, toutes les analogies sont centrées sur la France. D'où une question se pose, il me semble, est-ce qu'il y a un retour à l'histoire nationale? Et je dirais un double retour, dans le sens que, d'une part, il me semble que la question de la mémoire n'est pas présente cette fois-ci. Nous avons vécu dans les 30 dernières décennies une grande... La mémoire de ce que nous étions a joué un rôle fondamental, alors que là, il me semble être moins forte, mais surtout cette dimension nationale. Or, il me semble que ce retour à l'histoire nationale n'est pas quelque chose d'exclusif des Gilets jaunes ou de l'interprétation des Gilets jaunes, mais que c'est quelque chose qui est en train de monter dans la société française, comme dans beaucoup d'autres sociétés européennes, l'Italie, l'Angleterre. Dans le cas de Brexit, toutes les interprétations sur le passé ont des références nationales, la conquête des Normands, le Churchill, etc. Donc, il me semble que après une période, je dirais, de mondialisation de la mémoire et de mondialisation de l'histoire qui a été marquée par le débat sur la Shoah et le communisme, nous sommes en train peut-être de revenir à des débats sur l'histoire nationale.
Et alors, par exemple, en Italie, puisque d'une certaine manière, il y a des analogies que l'on peut faire, Sabina Loria, je pense notamment à cette consultation que souhaite faire Emmanuel Macron. Elle va se faire au travers d'une plateforme numérique. Or, en Italie, avec le mouvement 5 étoiles, vous êtes aujourd'hui familier à la fois des plateformes numériques et, je dirais, des impasses que celles-ci peuvent parfois introduire dans la gestion donc de la démocratie. Expliquez-nous et dites-nous un peu comment les choses se passent.
Oui, puis-je seulement dire une chose encore sur la France, parce que ça me semble important. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose qui a commencé sous Sarkozy, lors de la question du ministère de l'Identité nationale, et qui a été très très fort pendant les dernières élections politiques. C'est-à-dire, il y a eu vraiment, et ça serait, je pense, quelque chose sur lequel on devrait réfléchir davantage, un retour à l'idée qu'il faut une culture historique centrée sur la fierté de la France et sur la tradition française par toute une série de personnages de la droite mais aussi de la gauche. Je pense par exemple à Mélenchon, qui est très très important. Donc je pense que nous devons peut-être réfléchir davantage sur ce retour de l'histoire nationale dans les derniers temps et qui ne concerne pas seulement les Gilets jaunes. Pour l'Italie, Oui, bien sûr, il y a des analogies très importantes. La première et la plus importante, c'est celle que vous venez d'évoquer. Donc, l'idée d'un groupe politique qui s'appuie sur une plateforme numérique et que, comme Christophe Prochasson l'a déjà remarqué, et je dirais, s'entrait aussi peut-être à la base d'un certain présentisme du phénomène. Il y a, je dirais, deux choses qui ne coïncide pas, et c'est le fait que le mouvement 5 étoiles en Italie a été, je dirais, la création d'un chef, Beppe Grillo, et que donc la naissance est tout à fait différente, parce que nous continuons de dire que ici il n'y a pas de représentant des Gilets jaunes, alors que je dirais en Italie le mouvement 5 étoiles est géré par un patron, ou au moins par deux patrons. Mm-hmm. Mais je dirais il y a des patrons très importants. Autre différence, je dirais, avec l'Italie, c'est que le mouvement 5 étoiles n'a pas produit des moments de violence. Il n'y a pas eu de moments de violence en Italie. Et il y a un autre élément de similitude qui me semble très important du point de vue historique, et que c'est le syncrétisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le mouvement 5 étoiles, comme le mouvement des Gilets jaunes en France, mélange des thèmes tout à fait différents et des thèmes de droite, des thèmes de gauche, et je dirais que ce que nous avons, ce que parfois nous pensons comme un défaut, c'est-à-dire le manque de cohérence, est en réalité un grand atout de ce mouvement, c'est-à-dire le fait de pouvoir cumuler des références et des discours incohérents, ce n'est pas quelque chose qui affaiblit ce mouvement, mais c'est quelque chose, au contraire, qui renforce la capacité de parler à des groupes différents. Et c'est là peut-être que nous pourrions interroger une analogie historique plus profonde et plus difficile, qui est de certains mouvements populistes comme le péronisme, mais aussi comme le fascisme en Italie.
Pourquoi? Expliquez-nous.
Parce que si nous pensons par exemple à la prise du pouvoir de Mussolini, je ne suis pas en train de dire que les Gilets jaunes sont fascistes. Absolument pas. Mais je veux dire, c'est cet élément du syncrétisme qui me semble très important. Cette capacité de pêcher, je dirais, de nourrir le discours politique avec des éléments tirés de la gauche et des éléments tirés de la droite. Donc on peut parler en même temps de sécurité, mais aussi de justice et d'égalité. Et ça me semble être quelque chose de très très important.
Mais alors, donc, si vous ne faites pas la conclusion, le raccourci selon lequel les Gilets jaunes...
Absolument pas.
Donc alors, puisque ça n'est pas ça que vous souhaitez faire, une fois que vous avez fait ce rapprochement, qu'est-ce qu'il permet de penser, ou à quelle conclusion aboutit-il, Sabina Loriga?
Mais alors, comme Christophe Prochasson l'a déjà dit, nous ne pouvons faire que des hypothèses et très incertaines, parce que le mouvement vient de naître, donc vraiment on doit être très très prudent. Moi, je n'ose pas faire des prévisions sur ce que le mouvement, comment il peut se développer, parce que vraiment c'est trop tôt, je pense. Mais en revanche, ce qui me semble important pour la réflexion, je dirais, politique et historienne, c'est justement de ne pas penser ces mouvements de manière cohérente, mais de creuser davantage cette capacité de syncrétisme d'une culture politique.
Je peux prolonger
Christophe Prochasson, bien sûr,
là-dessus, sur cette incohérence que vous signalez. C'est aussi une incohérence dont, d'une certaine façon, a profité Emmanuel Macron, c'est-à-dire de coaguler des sensibilités très très différentes et d'en faire d'une certaine façon la théorie. Et pour prolonger cette remarque, enfin votre analyse, il me semble que on voit ce syncrétisme que selon selon votre formule, ce syncrétisme, on le voit aussi dans les formes d'appropriation internationale, puisque ici et là, on voit des gilets jaunes, des mouvements du gilet jaune dans plusieurs pays, par exemple en Belgique. Et moi, j'aimerais bien savoir, au fond, qu'est-ce que le langage, le syntagme gilet jaune signifie en Belgique. Et je vais prendre un autre exemple qui est intéressant. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, a eu lieu en Allemagne la commémoration de l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Et dans la manifestation, donc essentiellement portée par les communistes allemands ou ce qui en reste, il y avait aussi des gilets jaunes, ce qui donne évidemment une autre signification. Et cette internationalisation toute relative, la France se prend toujours pour le nombril du monde, toute relative du mouvement gilet jaune, va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que, en fonction des nations concernées, les gilets jaunes veulent dire, au fond, quelque chose, non, en quelque sorte, ou stop, ou mais pour des forces politiques parfois totalement contradictoires.
Mais alors, justement, parce que pour tenter de comprendre les parallèles à la fois historiques et nationaux que vous faites, Sabina Loriga, vous dites voilà, le fait d'avoir des éléments syncrétiques, ça peut renvoyer à l'expérience mussolinienne, mais il se trouve qu'aujourd'hui, cette expérience syncrétique, elle est également au cœur de la République en marche, puisque a priori Emmanuel Macron s'est fait élire sur l'idée qu'il serait à la fois de droite et de gauche, alors même que l'on voit qu'un phénomène qui pouvait passer pour oublié ou passer de mode, comme par exemple la lutte des classes, semble être finalement peut-être un peu plus d'actualité qu'on ne le pensait en France. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une tentative de gommer les clivages politiques, mais une tentative qui est une tentative vaine? Est-ce que ça signifie que finalement on voit naître de nouvelles formes de conflits et de clivages politiques? Qu'en pensez-vous?
Mais je pense deux petites choses. D'une part, que nous avons Christophe Prochasson a déjà parlé de crise des grands récits, de d'effondrement des cultures politiques, et donc évidemment il y a là quelque chose qui se passe, et ce besoin de syncrétisme, je dirais, surgit aussi de cet effondrement. Donc tout le monde est un peu obligé à bricoler. Et ça, c'est la première chose que je pense. La deuxième chose qui me semble très importante, il y a, de ce point de vue, je pense que les gilets jaunes sont un symptôme de quelque chose de plus large, peut-être ne représente pas tellement une nouveauté. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur la dimension nationale, c'est-à-dire que de la même manière que les gilets jaunes, les références historiques sont des références nationales qui ont été partagées dans les dernières 10 années par d'autres protagonistes culturels et politiques, il me semble aussi que ce syncrétisme, c'est quelque chose de partagé aussi par d'autres protagonistes politiques. Dans le cas de l'Italie, c'est évident. Nous avons une stratification qui est, et nous pouvons voir, je dirais, les 20 années de Berlusconi, et après, je dirais, le gouvernement Renzi, comme quelque chose qui, maintenant des ennemis, des adversaires, disons, des mouvements 5 étoiles, mais comme des expériences politiques qui ont nourri cette manière de penser la politique. Donc, il me semble que ce que je veux dire, qu'il y a des continuités dans les dernières années qui, je dirais, ouvre à ce genre de mélange et à ce genre de confusion apparente, je dirais.
Un mélange avec, là aussi, un autre rapport au temps. On en parlait tout à l'heure, Christophe Prochasson. Est-ce que la période que nous vivons marque un bouleversement du temps politique? Là, il y a un temps de débat qui s'est ouvert jusqu'au 15 mars. Qu'est-ce qui va se passer d'ici au 15 mars? Quel nouveau rapport au calendrier va-t-on entretenir? Puisque ça signifie que d'ici au 15 mars, il n'y aura aucune décision politique. Est-ce que ça, c'est compatible avec une pratique normale de la démocratie? Qu'en pensez-vous?
Bon, il est évident que entre le temps des politiques publiques, si j'ose dire, et le temps politique tel qu'il nous est donné aujourd'hui, rythmé même par des... Par des rendez-vous nouveaux, hebdomadaires. Enfin, c'est une chose assez nouvelle que, d'une certaine façon, dans le temps politique, on attend maintenant chaque samedi avec cette déclinaison en acte qui est une nouvelle façon de structurer le temps qui vient compléter, si j'ose dire, le temps des élections, qui est un temps démocratique. Et encore, il y en a plusieurs, des élections. La durée de vie des hommes politiques. Enfin, bon, il y a plein de temps emboîtés. Et là, ce mouvement a créé un nouveau temps. Et effectivement, ce nouveau temps percute le temps normal que s'était donné Emmanuel Macron, avec un calendrier prévoyant des réformes, accélérant les choses, etc. Donc, on peut s'interroger. Enfin, je pense qu'il y a une... Frédéric Seix parlait tout à l'heure de jeu de Rubik's Cube. Je pense que pour Emmanuel Macron, c'est aussi du Mikado qu'il fait. C'est-à-dire que il doit maintenir un certain nombre d'équilibres dans un champ de foire, quoi. Donc c'est une vraie difficulté de ce point de vue-là. Mais ce que je pense sur le temps, c'est l'urgence qu'on sent dans le mouvement lui-même. C'est-à-dire que, voyez, cette affaire des ronds-points, ça dit quelque chose, me semble-t-il, du temps aussi. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure sur la volonté d'avoir quelque chose immédiatement, tout de suite. C'est-à-dire que les ronds-points, qu'est-ce qui se passe dans les ronds-points ? Ça pourrait s'apparenter à une vieille pratique d'occupation ou de blocage. C'est-à-dire d'ailleurs, c'est aussi fait pour ça. C'est-à-dire qu'on bloque pour gêner, pour faire pression, etc. Bon, donc c'est ce qu'on appelait traditionnellement l'occupation, et ça pourrait évoquer d'anciennes occupations, à commencer par des occupations d'usines, dans les mouvements sociaux que l'on connaît bien, en tout cas dans les cultures politiques occidentales. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Il y a dans cette occupation ce que j'appellerais volontiers une habitation. C'est-à-dire qu'on habite aussi un espace, on organise sa vie, on y mange, on crée des liens particuliers. Alors, il est vrai, là encore, que cette dimension-là n'était pas absente des mouvements sociaux traditionnels, mais là, ça me semble prendre une force, une intensité exceptionnelle, et qui renvoie à ce rapport au temps. Encore une fois, on attend pas, comme on dit, par exemple, prenons l'exemple du Front Populaire, on occupe les usines, on fait la fête, les soupes communistes, etc. Mais on attend aussi les lendemains qui chantent. C'est pas tout de suite, c'est provisoire. On attend des lendemains qui chantent, qui réconcilieront l'homme avec l'homme, etc. et ouvriront sur une ère nouvelle. Là, c'est pas les lendemains qui chantent, on les attend pas, ces lendemains. C'est encore une fois ce présent qui s'impose comme temps politique principal dans ce mouvement. Et alors évidemment, excusez-moi, je finis, évidemment, ça percute complètement le travail des politiques. J'ai vu que l'ancien président de la République disait qu'il n'était pas facile de gouverner la France. Oui, en règle générale, ni n'importe quel pays d'ailleurs, ni n'importe quelle institution. Mais là, ça va être encore plus compliqué d'une certaine façon, parce que, évidemment, les conséquences de la mise en œuvre des politiques publiques, quelle qu'elle soit, sont forcément un peu plus éloignées que l'exigence de l'immédiateté de ce vivre ensemble.
Sabine Lauriga, oui. Là-dessus, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a une modification du temps démocratique ?
Oui, je partage avec ce que Christophe Prochasson vient de dire, et je pense aussi que peut-être pour cette raison, l'un des enjeux qui nous concerne, c'est la question du désaccord et du dissensus. C'est-à-dire, nous vivons une phase qui est par ailleurs passionnante de démocratisation, je dirais, de la prise de parole et de, avec la crise, disons comme ça, des grands récits, il y a des récits spécifiques, particuliers, fragmentés, maintenant l'enjeu politique qui se pose à notre société, est-ce que nous sommes capables, je dirais, de développer une possibilité de convivre avec des accords, de discuter davantage, et je dirais sans violence, mais je dirais, de hausser notre capacité à vivre les désaccords politiques et sociaux.
Le mouvement des Gilets jaunes en France, il renvoie aussi à un mouvement que vous avez connu en Italie, le mouvement des fourches, le mouvement des forconi, c'est comme ça qu'on dit en italien. Ce mouvement que vous avez connu, c'était il y a 5 ans, était lié à des paysans qui en avaient assez de la pression fiscale. Est-ce que là aussi, on pourrait pas tenter un rapprochement?
Oui, mais je dirais ça n'a pas pesé énormément. Et si c'est comme ça, c'est quelque chose qui a été vraiment une temporaire et qui après n'a pas eu, je dirais, des conséquences politiques très importantes.
Donc, on ne peut pas du tout en faire l'annonciateur des changements politiques qui ont...
Voilà, non. Je pense que non.
Christophe Prochasson.
Juste un mot pour poursuivre ce que disait Sabina Loriga, et au fond ce que nous attendons, c'est que quelque chose qui pourrait être une nouvelle raison démocratique, qui soit, je reviens un petit peu au débat aussi qui est ouvert aussi, une raison démocratique qui soit tout aussi étrangère, j'allais dire, aux tyrannies de l'expertise qu'aux démagogies populistes. Ce qui n'est pas facile à faire. C'est-à-dire qu'on voit bien comment ce qui a aussi bloqué le débat dans les dernières années, c'est qu'il a été capturé, monopolisé par ce qu'on a appelé des experts, qu'adorent d'ailleurs les chaînes continues en conviant des experts avec l'idée qu'à chaque problème, une solution. Bon, et cette confiscation du débat par l'expertise a interdit, je crois, ou limité un débat plus ouvert, qui aurait sans doute dessiné des perspectives un peu différentes et préparé au fond les uns et les autres à cette nouvelle raison démocratique. Et cette tyrannie de l'expertise a d'une certaine façon engendré bien son contraire, c'est-à-dire ce que je disais, les démagogies populistes, c'est-à-dire la mise en cause non seulement de l'expert mais au fond de tout savoir ou de tout détenteur de savoir qui consacre sa vie comme les chercheurs le font à trouver des idées voire parfois audacieusement des solutions. Et donc là, il y a un énorme travail à mener qui, en effet, passe par l'acceptation du désaccord et du dissensus. Une dernière remarque. Dans les dernières années, a surgi une nouvelle forme de débat qui pourrait être une des pistes pour créer cette nouvelle raison démocratique, qui sont ces conférences de consensus qui se sont un petit peu...
C'est-à-dire
eh bien, je pense à celle qu'avait engagée Madame Taubira lorsqu'elle était ministre de garde des Sceaux, c'est-à-dire où on met autour de la table un ensemble non seulement d'acteurs concernés par la question posée, mais aussi d'experts, mais aussi de savants, mais aussi de chercheurs, enfin bref, de toutes sortes de personnes qui ne se parlent pas le plus souvent et qui là sont mis dans le débat avec des points de vue différents en se confrontant et en s'écoutant. Je pense que c'est une forme de débat que ces conférences de consensus qui me paraît intéressante et pouvoir appeler à se multiplier si l'on veut éviter que ce débat ne soit, comme on peut le craindre, qu'un coup de com', qu'une façon un peu artificielle de clore la crise.
Y a-t-il eu des périodes de débat un peu semblables à celui-ci en Italie, Sabina Loriga? On a parlé des consultations qui avaient été faites par le mouvement 5 étoiles sur une plateforme numérique. Qu'est-ce qu'elles ont donné? Bon, il y a aujourd'hui un certain scepticisme à l'égard de cette méthode en Italie.
Oui, non, je ne pense pas qu'il peut... Il ne s'agit pas de véritable débat, c'est-à-dire pas dans le sens dans lequel nous sommes en train de penser des débats qui sont capables de nourrir une véritable culture démocratique. Parce que, de toute manière, je suis désolée de le dire, mais la plateforme du mouvement 5 étoiles, c'est une manière très expéditive de parler. Donc, c'est très... il y a aussi des côtés autoritaires, parce que comme je l'ai déjà dit, de ce point de vue, le mouvement 5 étoiles n'est pas la même chose que le mouvement des Gilets jaunes. C'est un mouvement qui a été créé par le haut et qui a, avec des formes de contrôle, je dirais, très très strictes. Donc il n'y a pas eu de forme de débat, et surtout dans une situation italienne encore une fois qui est plus large que le mouvement 5 étoiles et qui est, je dirais, marqué par 20 ans de Berlusconi. Et donc je pense qu'il y a un véritable défaut de ce point de vue, d'un véritable débat politique.
Un débat, on va beaucoup en parler sur l'antenne de France Culture aujourd'hui, et puis on va en parler également à l'École des hautes études en sciences sociales. Comprendre les gilets jaunes, c'est une journée que vous organisez, présentez-la nous, Christophe Prochasson.
Oui, Guillaume Erner, merci de rappeler cela. L'École des hautes études et surtout Romain Huret, Dominique Lénert organisent quatre rencontres, le 23 janvier, le 4 février, le 7 février, le 11 février autour des gilets jaunes, avec des entrées très différentes, hein, gilets jaunes et classe populaire, donc une première ébauche de sociologie des gilets jaunes. Deuxième journée consacrée aux revendications, mobilisations, répression. Troisième, à la crise de la démocratie dont nous avons parlé. Et la dernière, intitulée Inégalité et justice sociale, avec des intervenants comme Florence Aubenas, Gérard Noiriel, Julia Cagé, Antoine Bozio, Alexis Spire et bien d'autres.
Oui, non, si je peux ajouter une petite chose, le 25 janvier, toujours à l'École des hautes études en sciences sociales, nous organisons un débat public autour de Macron et l'histoire avec Christophe Prochasson, Marc-Olivier Barouche et Sylvie Tenon à 18h. Et peut-être c'est là aussi une occasion pour revenir sur ce thème.
Merci en tout cas d'avoir participé au matin et de nous avoir éclairé sur ce grand débat national. Merci Sabina Loriga et merci à vous Christophe Prochasson.